Accès libre avec Luc Fortin.
J'ai pensé aux gens en fauteuil roulant qui utilisent le métro beaucoup cette semaine avec finalement la saga de la station Bonaventure qui s'est terminée et tous les ascenseurs parce que l'ascenseur fonctionnait, mais l'ascenseur fonctionnait pas. Alors, ça a été compliqué entre 2008 et 2019. Mais celle-là, sur la ligne orange, donc on s'approche de la gare centrale, on s'approche du Centre Bell et de plein d'autres points névralgiques de ce centre-ville. Luc Fortin en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté, que je salue.
Salut Luc.
Comment vas-tu?
Ah, je vais. Et Luc, comment va-t-il?
Ça va très bien, je me suis senti coupable. Faut dire que Jean-Sébastien, est-il végétarien ou végétalien?
Végétarien, pas assez de volonté pour couper le fromage.
Mais en tout cas, j'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois qui nous disait qu'on devrait peut-être pas manger de viande dans son balado cette semaine. Puis je me disais, c'est con d'aller marcher pendant je sais pas combien d'heures puis de manger de la viande après ça rentrer chez nous.
Fait qu'il y a un trip de manger de la viande dans son balado?
Ben, c'est parce que on parlait de d'environnement et de marche. Et ben, en fait, pas de marche, mais de la viande et l'élevage comme étant un gros problème. Puis, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas intéressé par l'environnement.
C'est
sûr, hein?
Tout à fait.
On laisse finir la petite toune. N'est-ce pas, Christiane Compagnon?
C'est pas parce
qu'on est handicapé que... Hein? Quel beau lien.
Quel beau lien.
Quand même. Parce que Christiane est là pour nous faire la lecture d'une lettre qu'Émilie... Oh là là!
Le François
d'Execo a écrit, elle, en son nom et au nom de plusieurs, en marge de cette marche, de l'une des grèves de vendredi, celle de Montréal, où plusieurs ont sorti, mais les gens fauteuils roulants, semble-t-il, ont été mis de côté. Et on s'est dit, tiens, comme il y a un invité dernière minute qui s'est désisté, bon, on ne dira pas son nom, c'est pas de sa faute, on va juste dire qu'il est en charge d'une commission de transport qui a un enjeu important du côté du transport adapté par les temps qui courent. Et ben c'est ça.
Et que c'est pas à Montréal.
Et que c'est pas à Montréal, non. Puis que ça, s'il y a des rumeurs de gazoduc dans ce coin-là. Non, on dira pas c'est qui.
D'accord.
Donc, tout ça pour dire que, ben, tant qu'à mettre une toune de Perry Como, on s'est dit pourquoi pas lire la lettre d'Émilie parce qu'elle a raison sur malheureusement beaucoup trop de points. Et tiens, après ça, on va jaser, puis ensuite, je dirais, à part celui qui n'est pas là, qui sera là aujourd'hui?
Alors, la lettre pour titre « Pourquoi nous ne serons pas dans la rue avec vous aujourd'hui? » Montréal, 27 septembre 2019. Alors que la planète médiatique ne cesse de marteler le caractère historique et grandiose de la manifestation pour le climat qui se déroule aujourd'hui, pour nous, militants et militantes en situation de handicap et alliés, la journée n'aura rien d'historique ni de grandiose. Ce sera la répétition d'un scénario bien rodé, celui de notre exclusion quasi systématique des luttes sociales et environnementales. Nous ne ressentirons pas votre fébrilité et votre joie de vous retrouver en compagnie de milliers de personnes qui partagent votre désir de changement, l'excitation qui vient avec le sentiment de faire partie d'un mouvement plus grand que soi-même. Nous éprouverons plutôt des sentiments que nous connaissons bien, la colère et la déception. La déception de devoir une fois de plus se contenter d'un rôle de spectateur ou de spectatrice. La colère d'être exclu d'une lutte qui nous concerne autant, sinon davantage. Chronologie. Notre participation à cette mobilisation était compliquée dès le départ. Depuis l'annonce de la tenue de cette manifestation jusqu'à son départ aujourd'hui, une suite de décisions humaines et évitables ont fait en sorte qu'une grande partie de nos concitoyens et concitoyennes en situation de handicap ne seront pas à vos côtés dans la rue. Par choix? Assurément pas. Premier obstacle. Le manque d'informations et l'entêtement des groupes organisateurs à garder secret l'itinéraire. Quand? Où? Le trajet sera-t-il facile à parcourir? Sans obstacle? Des informations élémentaires que le manifestant typique, lire qui n'est pas en situation de handicap, peut se permettre d'obtenir le jour même. C'est un peu différent pour nous et les gens que nous représentons avec nos déplacements planifiés et réservés à l'avance. Les informations nous parvenaient au compte-gouttes, tantôt contradictoires, tantôt confuses. Le dialogue amorcé avec les groupes impliqués de près ou de loin dans l'organisation n'a rien changé. Pour des raisons de sécurité, l'itinéraire ne sera pas dévoilé, même de façon confidentielle. Si votre but était d'assurer notre sécurité, c'est réussi. C'est l'intérieur paisible de nos domiciles que nous regarderons passer votre cortège. Trop souvent, nous avons accepté cette excuse avec résignation, avec solidarité même parfois, soucieux et soucieuses que vos actions soient une réussite. Cette pratique du secret, bien répandue dans les milieux militants, est contestable en toutes circonstances, mais elle est assurément injustifiable lors d'une mobilisation de si grande envergure où le potentiel de répression et de perturbation est nul. Nous avons tenté de faire fi de ce premier obstacle, de glaner ici et là des informations dont nous avions besoin. Nous avons organisé nos services à domicile en conséquence. Nous avons planifié notre journée avec minutie, c'est-à-dire prévoir amplement de temps avant et après la manifestation, trouver des adresses de transport suffisamment loin du périmètre de sécurité, mais qui respectent nos capacités et celles de nos aides à la mobilité, trouver des toilettes accessibles, des endroits où l'on puisse se nourrir, réserver longtemps à l'avance les déplacements pour ne pas se les voir refuser, comme c'est souvent le cas lorsque des perturbations sont prévues. Nous avons aussi affronté nos petites voix intérieures, celles qui nous rappellent que les foules nous sont parfois hostiles, avec des marcheurs et des marcheuses distraits, exaltés, et nous à mobilité réduite, presque invisible. Malgré tous ces obstacles, nous voulions être à vos côtés. Nous le voulions parce que, comme vous, nous croyons que cette lutte relève du devoir citoyen et que, croyez-le ou non, nous sommes des citoyens et des citoyennes à part entière. Nous avons certes nos luttes et nos enjeux spécifiques pour lesquels votre contribution est toujours la bienvenue, soit dit en passant, mais nous sommes avant tout des êtres humains qui, comme vous, sommes inquiets et inquiètes de l'avenir de la planète et croyons que le statu quo est insoutenable. Nous voulions aussi manifester à vos côtés parce que les personnes en situation de handicap doivent être représentées dans le mouvement environnemental. Nous devons avoir un rôle actif dans la transition énergétique pour s'assurer que les solutions proposées ne créent pas de situation de discrimination supplémentaire, comme ça a été le cas pour le mouvement anti-paille. Nous devons également faire partie de la réflexion parce que les changements climatiques n'affecteront pas tous les individus de la même façon. On le voit déjà dans une certaine mesure, puisque les épisodes de canicule affectent davantage les personnes âgées, les personnes ayant des maladies chroniques, les personnes à faible revenu. Les inondations sont un autre bon exemple. Si c'est toujours déchirant de devoir quitter sa maison, il n'en reste pas moins que c'est autrement plus complexe pour celles et ceux qui ont des problèmes de mobilité. En dépit donc de notre prévoyance et de notre motivation, en dépit du fait que nous sommes directement concernés par la lutte dans laquelle s'inscrit cette manifestation, nous ne serons pas dans la rue avec vous. Hier, en toute fin de journée, la Société de transport de Montréal a cavalièrement décidé d'annuler les déplacements en transport adapté en direction ou en provenance de la manifestation. Sans plan B, et beaucoup trop tard pour que nous puissions en élaborer un nous-mêmes. Quand vous vous époumonerez au nom de cette lutte prétendument universelle, merci de garder en tête que cette manifestation reproduit des comportements, attitudes et habitudes discriminatoires qui nous empêcheront une fois de plus de manifester à vos côtés. Cette lettre est co-rédigée par des salariés et des militants de l'organisme Exéco et du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal.
Est-ce que l'on sait si ça a été publié quelque part?
Je n'ai pas vu passer.
Ou sur le CNW uniquement? Ou...
Normalement, le CNW apparaît, moi, quand je fais mes recherches sur Google le matin, parce que, bon, pour les auditeurs, tout le matin, moi, je fais des recherches avec plein de mots-clés qui concernent le transport handicapé, le transport adapté, pardon, le handicap, tout ça. J'ai une série de mots-clés et ça n'a pas apparu nulle part.
OK. Donc, peut-être juste sur la page Facebook, je ne sais pas. En tout cas, ce serait intéressant. Bon, je regarde nos semaines à venir, peut-être le 21 octobre, de parler à... De toute façon, on ne peut plus parler d'élection le jour de l'élection. Donc, de parler à quelqu'un de la manif pour voir dans l'organisation, là, pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Mais ce que je remarque, et j'ai envie d'avoir ton son de cloche aussi là-dessus, Christiane, c'est qu'on trouve avec ces coups là où on ne les attendait pas, mais ils ont fait leur job. C'est à ça qu'Execo sert, un peu comme leur applique. Et la première fois que j'ai lu cette lettre-là, je me disais, ah, pourquoi assombrir quelque chose qui... C'est sûr qu'il y a eu des imperfections dans cette marche-là à plusieurs égards, dont, là on le découvre, l'accessibilité ou le manque d'accessibilité. Mais en même temps, là, je me dis, ouais, mais il fallait que ce soit dit.
Oui. Oui, en effet, aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission, ne serait-ce que pour pas que ça se reproduise, ouais. Parce qu'il existe des solutions. Altergo nous le rappelle souvent quand il parle d'organisation d'événements inclusifs. Plus on travaille en amont, plus les choses se règlent simplement. On peut penser si le trajet avait été connu d'avance, à une collaboration, par exemple, avec un organisme comme onroule.org, qui aurait pu en profiter même pour évaluer quelques endroits le long du trajet pour évaluer si les gens pouvaient aller manger quelque part, pouvaient aller aux toilettes quelque part. Donc, ça se préparait depuis longtemps quand même. Alors, il y aurait eu des solutions pour peut-être pas tout régler du premier coup, mais régler des choses en amont, certainement.
C'est ça. Peut-être, en tout cas, si on n'est pas capable d'ajuster le tracé pour que celui-ci comporte des endroits accessibles pour se restaurer, pour aller à la salle de bain, sur chaque rue, emprunter, à tout le moins, OK, on prend le tracé, puis là, on dit, bon, ben, retenez-vous jusqu'à Avenue des Pins et tel coin de rue, vous êtes correct là. Puis après ça, ça peut être long, donc, un peu comme on fait quand on traverse le parc des Laurentides. Je veux dire, on se dit, bon, ben OK, on a un bout de chemin à faire, on va arrêter avant ou on va arrêter au milieu ou quelque chose comme ça. Mais là, ça...
Et pour l'avoir fait, la marche, il y aurait eu des endroits, donc avoir connu le trajet. Bon, dans les débuts du trajet, peut-être moins, quoi, qu'il y aurait peut-être eu moyen de s'informer, de collaborer. Je sais pas, je suis pas très au courant de l'accessibilité de la cité sur du parc, mais j'imagine que c'est probablement accessible. Mais sinon, ensuite... le trajet passait tout près du complexe des jardins, par exemple. Mm-hmm. Donc, il y avait possibilité là, d'avoir des arrêts pour tout le monde.
Ouais. Sinon, dans d'autres lectures que tu as faites ou que tu as vues cette semaine, est-ce qu'il y a des choses qui...
Oui, tout à fait. En France, il y a un athlète paralympique dont on parle maintenant, là, mais un ancien athlète paralympique. On n'a sûrement jamais autant entendu parler de lui. Il s'appelle Sami El Guedari. Mais ce n'est pas pour ses performances sportives, c'est parce qu'il participe à la télé-réalité Danse avec les stars, okay. Version française de Dancing with the Stars.
Okay. Et c'est notre Lazy Legs, c'est leur Lazy Legs à eux.
Oui, ouais. Si on veut. Quoique, ce n'est pas l'équivalent de la même émission à laquelle Luca avait participé aux États-Unis. C'est plus l'émission où une personnalité du public danse avec un danseur professionnel, surtout des danses sociales. Aux États-Unis, en ce moment, c'est l'ancien... chargé de communiquer à la Maison-Blanche, son nom m'échappe.
Il y en a eu plusieurs, il me semble.
Mais le premier, qui est celui qui a assuré qu'il y avait plein de monde à l'inauguration de Trump, en tout cas, ça va me revenir.
Et puis avant la madame, là.
Mais là, depuis que M. Guedari participe à cette émission-là, je vois passer des articles sur lui tous les jours. Maintenant, le public français veut savoir qui il est.
Okay.
Pour rappeler qui il est, donc, amputé de la partie inférieure à la jambe gauche suite à une malformation de naissance et de 4 phalanges à la main droite. Il a pratiqué la nage à partir de l'âge de 5 ans, champion de France du 50 mètres et du 100 mètres, nage libre en 2006, 2009, 2010. Il a également participé aux Jeux paralympiques d'été de 2006 de Pékin, puis à ceux de Londres en 2012.
Monsieur Guedari, c'est ça?
Monsieur Guedari.
Bon, puis Sean Spicer me dit
Sean Spicer, voilà, exactement. Il paraît d'ailleurs que son premier costume était vraiment hideux, comme quoi peut-être l'équipe de la production de l'émission s'est un petit peu vengée sur Monsieur Spicer. Du côté des États-Unis, justement, il y a eu un scandale, là, essayant d'accommoder, entre gros guillemets, un jeune autiste de 11 ans. Une école de Bellingham lui a installé un pupitre dans une salle de bain abandonnée. Donc, ça a sorti parce que la mère de l'enfant, Danielle Goodwin, a dénoncé la situation sur sa page Facebook. Donc, selon cette dernière, comme l'élève se sentait plus à l'aise dans un environnement silencieux, son enseignante a décidé de lui aménager un espace dans une salle de bain désaffectée, déposant un pupitre par-dessus la toilette et un matelas de camping sur le sol pour qu'il puisse se reposer.
Ben oui, de toute façon, les enfants ne vont pas à la toilette dans cette salle de bain-là.
Ouais,
disait
mais
le prof.
Quand même. Luca, lui, s'est senti humilié, gêné et il ne voulait pas retourner à l'école dans les jours qui ont suivi. Ouais. Bon, interrogé par le Como News, qui est la source de la nouvelle. Une porte-parole de l'école a souligné que la direction était au courant de la situation et que le pupitre de l'élève avait depuis été retiré de la salle de bain.
C'est sûr. Dernière?
Oui. La semaine dernière, il y avait la Journée internationale des langues des signes et j'ai vu passer un article belge et ça m'a fait me poser la question. En Belgique, où ils ont 3 langues officielles, qu'est-ce qu'ils ont comme langue des signes? Et il y en a 2. Il y a la langue des signes francophone de Belgique,
yeah,
et qui est la langue utilisée par les personnes sourdes de la Belgique francophone, et la langue des signes flamande, qui est la langue des signes utilisée par les personnes sourdes et leurs proches en Belgique néerlandophone. D'ailleurs, cette dernière a fait récemment l'objet d'une controverse. Il y a une vidéo qui a été mise en ligne de type un peu dictionnaire, et les signes pour représenter les personnes juives en flamand consistent à mimer un écroche qui est considéré comme raciste par les associations de défense des droits.
Wow.
Donc, une langue qui aurait peut-être besoin d'une petite mise à jour.
Ben oui, puis probablement qu'à une certaine époque, ça passait, mais
c'est
à un moment donné, il faut évoluer.
Voilà, exactement.
Wow. C'est sympathique. Oui, oui, tu as raison, Jean-Sébastien. John Pizzarelli qui va nous chanter un classique des Beatles et qui va laisser sa guitare dans le garde-robe. C'est pas ses habitudes, mais c'est beau, vous allez voir.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. You've seen that road before. It always leads me here. Leads me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. How many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. Still they lead me back to the standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your
C'était-tu beau, Jean-Sébastien, ou ça faisait trop l'AB de grand hôtel américain?
C'était correct.
Ah, non, c'est vrai, on dirait que samedi soir, c'était très beau. Puis là, j'écoutais ça, puis je me disais, oh, on dirait que je suis moins sûr.
Est-ce que tu étais dans le lobby d'un hôtel américain samedi
non,
soir?
Non, mais j'étais dans un mood très tranquille. D'ailleurs, les gens vont le remarquer avec mon deuxième choix, Gran Torino, de Jamie Cullum, un peu plus tard. Alors que plus tard également, il sera question de l'accessibilité des salles de spectacle à Québec et de la langue des langues des signes autochtones que l'on veut préserver. Mais pour le moment, on jase avec Dominique Tremblay. Habituellement, on aime parler à Dominique de sport. Mais là, Dominique s'est fait un petit cadeau. Et je me disais, tiens, ça pourrait peut-être être utile aux autres personnes qui ont des fauteuils roulants. En tout cas, je sais que si jamais Dominique en achète un, moi, ça va m'être utile parce qu'au lieu de le pousser pour monter la côte au stade Saputo, je vais pouvoir m'asseoir sur ses genoux et me laisser traîner par son petit tracteur qui maintenant va traîner son fauteuil roulant. Salut, Dominique Tremblay.
Salut, Luc, ça va?
Ça va très bien, merci. Tu veux me parler d'une troisième roue motorisée pour fauteuil roulant manuel? C'est comme ça que ça s'appelle.
Simple, ça. Donc, au début du mois de septembre, moi et ma conjointe, on a loué cette pièce d'équipement-là pour l'essayer pendant 2 semaines. Ça nous a permis de nous promener un peu partout sur les pistes cyclables à Laval avec nos enfants. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial.
Bon, c'est le motorisé, moi, qui m'intéresse.
Oui, ben en fait, c'est un devant de moto, en fait. Donc, une roue avec un guidon puis qui fonctionne à batterie.
Okay.
Et c'est branché à partir avec une braquette qui est fixée à notre fauteuil roulant. Et ça nous permet, dépendant du type de troisième roue motorisée qu'on a, ben de se promener sur différents terrains à différentes vitesses et ainsi de suite. Là.
Donc, il y a différents modèles selon tes besoins, c'est ce que je comprends. Là.
Ben un peu comme quand on veut s'acheter une voiture, c'est important de magasiner un petit peu. On en a, moi et mon conjoint, on avait regardé à peu près 7 ou 8 modèles. Il y en a d'un peu plus de bas de gamme à du très haut de gamme. Et c'est important aussi de savoir quel genre d'utilisation on veut en faire. Parce que c'est pas toutes les troisièmes roues qui peuvent, par exemple, aller dans le gazon ou encore qui est capable de facilement monter des côtes. Et aussi, les systèmes d'ancrage au fauteuil roulant ne sont pas nécessairement faciles ou rapides à installer.
Et là, vous l'avez essayé en septembre et non dans la neige.
C'est ça. Mais lui qu'on a essayé, donc le modèle que l'on a essayé, c'est Batek, une compagnie espagnole. Et lui peut aller un petit peu de neige.
Okay.
Donc, s'il vient de tomber de 1 ou 2 ou 3 centimètres de neige, la roue va être capable de se débrouiller. Mais plus que ça, là, ça risque d'être un peu difficile aussi. Comme c'est des choses électriques, là, ça risque d'endommager les circuits.
Tu as dû louer ça à Toronto, c'est qu'il n'y a pas de dépositaire au Québec?
Ben en fait, c'est que j'ai loué de la maison André Vigé, mais l'importateur vient de Toronto, d'une compagnie qui s'appelle j'ai un bon mémoire, mais mais est-ce que tu connais Chantal Benoît?
Oui.
La joueuse de basket. Roulant.
Oui.
Avec son conjoint, ils sont maintenant à Toronto et ont différents sont importateurs d'équipements de fauteuils roulants et d'autres, des coussins par exemple, et ont aussi ces choses-là.
Okay.
Et par l'entremise de la maison André Vigé, avec un monsieur qui s'appelle Mathieu, maison André Vigé de Verdun, on a pu louer ça pour 2 semaines. Et puis, c'est ça le qu'on a pu faire.
Bon, c'est vraiment très coûteux. Je me souviens plus du prix, mais quand tu me dis que tu t'avais loué ça, tu m'avais dit, c'est parce qu'avant d'acheter, on veut vraiment le savoir, parce qu'il faut presque faire un prêt à la banque, là.
Bien, donc, la compagnie, le modèle qu'on a choisi, le Batek, son prix de détail est alentour de 9 600 $. Mais son système d'ancrage prend à peu près 30 secondes à installer, peut se tenir debout tout seul, donc ils ont des pattes pour qu'ils puissent se tenir, donc c'est beaucoup plus facile à déplacer quand tu ne l'as pas après ton fauteuil. La vitesse de pointe qu'on peut atteindre. On peut quand même atteindre jusqu'à 20 km heure.
Wow.
Sur l'asphalte.
Tu vas arriver au stade avant moi.
C'est ça. il peut se promener dans le gazon. Et il y a une autonomie de batterie d'à peu près 40 à 50 km.
Ça, c'est quoi? C'est une journée, un peu plus qu'une journée, là, avec... de fonctionnement. Donc, même si tu es à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu y vas manuellement, c'est-tu lourd à pousser? Si tu t'en sers pas, mais qui est attaché?
Ben, disons que je me promènerais... je m'en sers... S'il est attaché, je l'utilise tout le temps.
OK.
C'est sûr qu'il n'est pas attaché, bon, il se déplace un petit peu plus difficilement, mais par exemple, il y a trois vitesses. Donc, la vitesse marche qui va aller jusqu'à 6 km heure, la vitesse vélo qui va à peu près à, mettons, 12-13 km heure, et la vitesse folle, en fait, c'est un triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur du triangle, ça va aller jusqu'à 20 km heure. Mais je peux me promener dans un centre d'achat à 6, 7, 8, à 6 km heure.
Okay.
Puis je réussis à faire mes déplacements.
Et ce que tu me disais, ça m'a touché le petit cœur humain que j'ai. C'est que tu me disais, ben là, j'ai pu vraiment faire... Bon, mes jeunes avaient été sur leur vélo, puis j'ai pu les suivre longtemps, puis finalement, on faisait des activités beaucoup plus longues en famille. Et j'avoue, moi, c'est comme... Ben, c'est bien trop vrai.
Ben, juste pour une des dernières journées, là, je suis parti un après-midi que ma fille de 8 ans avait une journée pédagogique. On est parti de mon domicile, on est allé à la station de métro, et on est allé elle est allée en vélo, moi j'avais le BATEC. On est arrivé aux stations de métro, elle a laissé son vélo au métro. On est allé à la bibliothèque nationale au centre-ville, la station de Berry. On est revenu et après ça, on est parti se promener sur la piste cyclable dans le sud de Laval. On a même traversé le pont ferroviaire, puis se promener un peu du côté de Montréal. On a fait un total de 13 km. Puis on a fait ça en dedans 2 heures.
Ben, c'est peut-être parce que je te connais et donc ça me touche davantage, mais ça m'émeut tout ça. Maintenant, il reste à le payer. Parce que ce que je comprends, c'est que vous avez décidé de l'acheter, là.
Ben, on s'est comme créé un besoin.
Ben oui.
Malheureusement, pour le compte de banque, là, avec deux enfants qui aiment ça faire le vélo, qui aiment ça se promener dehors, ma conjointe, en 2 semaines, elle a fait quelque chose comme 120 km. Moi, j'en ai fait à peu près 60. Puis, tu sais, ça nous donne une liberté. Tu sais, on parle beaucoup d'environnement, de pas trop se conduire, de se promener, mais avec ça, on peut aller faire l'épicerie. Ouais. Avec un sac, puis revenir.
Je suis obligé de te laisser, mais super. Merci beaucoup de nous en avoir parlé.
Ça fait plaisir, Luc.
On s'en va à la pause.
Vous écoutez Accès libre.
Avec à la régie Jean-Sébastien Laliberté, à la recherche chez Edimestre Christiane Campagna. Je ne sais pas s'il est encore Edimestre, mais en tout cas, c'est ça sur sa... Sur la feuille de route, c'est marqué que Christiane était Edimestre.
Du moins pour cette émission-là.
Oui, puis elle est également lectrice. Et
beaucoup plus.
Oh, Seigneur, tellement plus. Et Simon April, lui, bon, il n'est pas là toutes les semaines, mais on est quand même content de l'avoir aujourd'hui parce qu'il y a des bonnes nouvelles selon Radio-Canada. Simon est responsable de la défense des droits et des communications au Comité d'action des personnes vivantes avec en situation de handicap, le CAPVI du côté de Québec. Bonjour Simon.
Salut, ça va bien, les gars?
Ça va très bien, merci.
Parfait.
Dis que ça va bien, Jean-Sébastien. Dis les gars.
Merci de ton souci, Simon, ça va très bien.
Simon, je lisais un article de Radio-Canada qui, d'ailleurs, auquel tu as participé, parce qu'il n'y a pas juste un article, là, il y avait une petite vidéo où la journaliste montrait, je présume, là, je ne vois pas les images, évidemment, mais montrait, je présume, le... J'ai juste le layout, là, mais l'étalement ou la mise en place de différentes salles. Et semble-t-il qu'à Québec, en tout cas, on a vraiment un bon bulletin côté accessibilité des salles de spectacle si on compare avec Montréal ou d'autres villes au Québec. Bon, parfois, lorsqu'on lit un article ou lorsqu'on voit le traitement de la journaliste, on se dit « Ah, je l'aurais pas fait comme ça ». Est-ce que tu étais satisfait? Est-ce que tu as été mal cité? Est-ce que qu'on règle ça tout de suite? Parce que je voudrais pas te...
Tu veux dire si Montréal ou que
non,
Québec,
si,
pas Montréal ou...
Non, est-ce que dans ce qu'on t'a fait dire dans l'article et dans la vidéo, est-ce que ça correspond à ce que tu penses?
À ce que je pense, oui. Je
parfait.
Pense que, puis l'organisme aussi.
Parfait.
Ce qui arrive, c'est que la demande a été faite par une journaliste de Québec qui voulait comparer un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs au Québec versus la ville de Québec.
Mais comment se fait-il qu'elle a pensé à ça toute seule? Elle est bien bonne, elle.
Je ne sais pas si ça vient, parce que dans le fond, l'entrevue était supposée d'être plus en début septembre, puis on a été repoussé à mardi passé.
Okay.
Donc, parce que, à cause des élections fédérales, c'était supposé passer la journée des élections fédérales de déclenchement. Là, dans le fond, Hervé, moi, je soupçonne que ça vient des spectacles de Céline Dion que nous avons eus à Québec. Je ne sais pas si pour vous, vous avez eu des...
Non, ben, elle est malade, il va falloir qu'elle revienne.
Je vous taquine, je
vous taquine.
Mais nous, on a eu les spectacles, puis je pense que c'était dans le phénomène un peu là de est-ce que les salles de spectacle peuvent répondre aux personnes handicapées là, dans la région? Et la réponse, ben dans le fond, la journaliste, peut-être qu'elle s'attendait à trouver Anguille sur Roche là que les salles de spectacle ne répondent pas vraiment à ce que les personnes handicapées ont besoin. Mais curieusement, elle a trouvé que la Ville de Québec répondait très bien aux critères d'accessibilité.
Et même au-delà des critères d'accessibilité, est-ce que tu as une idée pourquoi un tel succès chez vous?
Un tel succès, il y a toujours des problématiques aussi. Là, je veux dire.
Je pense c'est quoi, 110 places du côté du centre Vidéotron, quelque chose comme ça?
C'est 108.
108 quand même.
Mais là, on va mettre un petit bémol là-dessus aussi. C'est 54 places pour personnes en fauteuil ou handicapées et 54 places accompagnateurs.
OK, donc deux personnes en fauteuil. Supposons 100 personnes en fauteuil, puis ça marcherait pas.
Je vais expliquer la patente. Là. Dans le fond, c'est que c'est Ticketmaster qui vend les billets pour le Centre Vidéotron qui fait cette réglementation-là. Donc, le Centre Vidéotron, eux, ont 108 places. Moi, regarde, je vais vous donner un exemple. Mon frère est en fauteuil aussi. Il n'y a rien qui empêche que mon frère est mon accompagnateur.
Ah oui, bon, OK.
Donc,
parfait.
On peut y aller à deux personnes en fauteuil.
Parfait.
La différence, c'est que si une personne en fauteuil, il ne va pas accompagner, bien, la place accompagnateur est perdue.
À moins qu'il y ait une autre personne en fauteuil qui n'est pas accompagnée puis qui va également, non?
Ben non, dans le fond, le banc, le siège accompagnateur, il ne sera pas mis en vente.
OK.
Mais ça, c'est pas le Centre Vidéotron qui fait ça.
C'est Ticketmaster.
Okay. Ça fait on l'a réécrit quelques fois, puis la situation ne change pas.
Okay.
Mais je pense que c'est pareil pour tout ce qui est Ticketmaster, là. C'est pas juste à Québec.
Mais sinon, je disais qu'il y avait quand même certaines salles où on disait que ça allait au-delà des normes.
Oui.
C'est quand même bien, non?
Ben oui, c'est une super de bonne nouvelle. Le Grand Théâtre, c'est en train de se... ils refont un peu les salles aussi. Donc, comme au Grand Théâtre, il y a plusieurs salles. Il y a des salles plus accessibles que d'autres. Mais tu sais, je veux dire, la journaliste a parlé beaucoup du nombre de places pour personnes en fauteuil.
Mm-hmm.
Est-ce que l'expérience totale...
Ah, okay.
Ça, c'est une autre question. Là.
Bon, mais ça n'a pas été abordé dans l'article. Puis là,
non.
Je me demandais, bon, OK, je te pose la question bien honnêtement. Est-ce que tu changes ton... Est-ce que tu mets un bémol suite à l'émission Décapée ou tu aurais mis ce bémol-là même avant que Michel dise ce que tu viens de dire? Parce que Michel, c'est ce qu'il disait à l'émission Décapée la semaine passée. C'est que finalement, oui, il y a le nombre de places, mais c'est souvent des places mal placées.
Dans le cas de...
Es-tu d'accord avec Michel?
Ça dépend des salles. Il y a des salles que je suis d'accord, il y a des salles que je suis moins d'accord.
Okay.
On avait parlé, moi puis Michel, avant qu'il fasse son
éditorial.
Oui, exactement. dans le fond, je suis un peu... parce que là, on parlait beaucoup des salles de spectacle. On parle pas du festival d'été
ou
des choses comme ça qu'on est super bien placés.
Ouais.
Centre Vidéotron, en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des places aux deux étages pour personnes en fauteuil, donc deux choix de sortes de billets. Au Centre Bell, parce que j'y vais quand même assez régulièrement voir les Canadiens, c'est pas possible. Il y a juste un étage.
Okay.
Donc, on a beaucoup moins de place au niveau du Centre Bell. Mais là, on parle des gros amphithéâtres. Si on y va dans les plus petits, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Là. Si on parle du Capitole, je pense qu'on a 6 places. puis des fois, c'est sur demande. Donc, ils peuvent ajuster la salle en fonction du nombre de personnes handicapées qui font la demande de billets. Est-ce que chaque personne handicapée qui achète un billet se déclare une personne handicapée? Ça, c'est une autre chose aussi. Il y a beaucoup de contexte là-dedans. J'ai reçu la semaine dernière un commentaire concernant justement l'article qui avait passé. La salle Albert-Rousseau du Cégep de Sainte-Foy, qui est une salle qui a été rénovée, et les places pour personnes en fauteuil sont seulement au balcon.
Oh, OK.
Donc ça, c'est un petit peu plus plate que là, quand tu veux avoir une meilleure interaction là, avec la salle. J'ai eu là, une dame qui m'a appelé, là, qui va là avec une béquille, puis quand elle s'assoit dans la zone générale, qu'on peut dire, bien, on lui enlève ses béquilles pour pas qu'il soit dans l'allée et tout. La madame, elle me disait, ben je peux pas aller aux toilettes quand que je veux, il faut que je fasse une demande et tout. Donc, il y a quelques accommodements de même, là, que c'est pas toujours rose.
C'est quand même dommage qu'elle puisse pas les glisser sous les sièges.
Elle a demandé, mais elle refuse question de sécurité.
Quand j'avais un chien guide, moi, c'est là que je le mettais sous les sièges, puis je disais au voisin, bon, faites attention, il y a une queue, puis ça se peut que, là. Puis le voisin, une fois qu'il le sait, ça allait bien.
Mais je pense que c'est du cas par cas par les salles.
Ouais, ouais. Les petites salles, tu sais, vraiment là, ce que Christiane appellerait le underground, que ce soit, je sais pas moi, les petits cafés ou les bandes moins connues vont performer, est-ce que ça, c'est assez accessible?
Moi, je trouve, ça c'est personnellement à moi, là, j'ai pas fait d'enquête là, non plus, je trouve que c'est là que le bas blesse un petit peu, parce que souvent, c'est des vieilles salles de spectacle. Donc, on aurait fait comme le Diamant dernièrement ou le Théâtre Labordé. Ça, c'est des salles qui ont été rénovées puis qui ont fait l'effort de l'accessibilité. Donc, ça peut être bien. Moi, je te dirais peut-être plus les petites salles, là, genre que les groupes de musique là, assez aléatoires à chaque semaine. Là. Mm-hmm. Peut-être que là, c'est plus difficile. Mais encore là, la sensibilisation s'est faite au fil des ans. On a à la Ville de Québec un comité accès culture. Donc, on se réunit là quelques fois par année pour discuter justement là comment rendre la culture plus accessible. Cet été, là, on a fait la démarche pour rendre accessible un parc là, qui a des spectacles à toutes les semaines.
Okay.
Donc, c'est une sensibilisation qu'on fait aussi au niveau des promoteurs de spectacles, comme Gestev aussi, qui ont fait un spectacle qui était passé à la baie de Beauport, dans le sable, dans le fond. Mais ils ont pris le temps de nous appeler, nous, les différents organismes communautaires, pour connaître les besoins, puis ils pouvaient faire une plateforme pour accueillir les personnes en fauteuil avec un cheminement assez court et tout. Là. Donc, ils sont très ouverts. Puis ce que je disais dans l'article aussi, c'est qu'on avait fait affaire avec un monsieur qui est directeur du théâtre des Gros Becs et des théâtres pour enfants. Eux ont eu la possibilité de faire un nouveau théâtre qui est dans le Vieux-Québec, qui s'appelle le théâtre de la Caserne.
Oui, il me semble que c'est même le propriétaire de la salle qui a fait les démarches puis qui est allé pour voir comment rendre sa salle accessible. C'est quand même fameux.
Oui, mais moi, je trouve que ça montre l'ouverture des personnes qui veulent faire ça. Donc, Jean-Philippe, qui s'appelle, donc il m'appelle, il me dit « j'ai des plans, je voudrais voir comment on pourrait bonifier l'accessibilité là-dedans ». Puis il dit « maintenant, on a juste les plans, là. On est en train de développer ». Donc, y aller en amont, ce serait super.
Ah ouais.
Donc, on s'est assis avec lui. Aussi, il faut dire que la clientèle, c'est des enfants. Là. Donc, des fois, je vous donne un exemple. Si on a des places pour personnes en fauteuil à l'étage et au rez-de-chaussée, ben c'est quand même bien d'avoir des toilettes là accessibles aux deux étages.
Ouais.
Parce que prendre l'ascenseur avec un enfant qui là aux toilettes, des fois, c'est pas toujours évident.
Oui, puis même le comptoir, si jamais tu veux aller t'acheter un petit quelque chose à l'entracte, trop souvent, les comptoirs sont très, très hauts, puis il me semble que c'est comme un peu diminuant d'être obligé de regarder super en l'air, puis tu sais, il y a moyen de placer ce comptoir des ventes-là d'une façon où un compromis entre ceux qui sont debout et ceux qui sont assis.
Bien, il y a ça aussi. Il faut pas oublier aussi les débarcadères transport adaptés.
Mm-hmm.
Donc, parce que là, on, dans le secteur du Québec, c'est très limitant comme endroit. Donc, on est parti de là parce qu'on fait un peu plus une espèce d'expérience cheminement. Donc, on arrive, on rentre, où sont les services, où sont les pour répondre à mes besoins, est-ce que je peux me rendre à telle place. Puis ce qu'on a fait avec ce monsieur-là aussi, qui est très intéressant, c'est que on a permis d'avoir des places en arrière ou en avant. Je vous explique rapidement. Dans le fond, c'est une salle à peu près de 300 places. Puis si une classe, parce que des fois, c'est des classes d'école qui vont là,
okay.
On remplit pas la salle, mais on met les personnes en fauteuil en arrière, donc à peu près à 5 rangées de bancs ou 10 rangées de bancs, qui sont pas dans l'expérience avec tous les autres élèves.
C'est sûr.
Ce qu'on a permis de faire à l'avant, c'est enlever comme un regroupement de sièges de 6 places. Donc, quand on sait qu'il y a des plus petits groupes, il y a des personnes en fauteuil, bien, on peut mettre enlever les bancs puis installer les gens à l'avant. Donc, c'est amovible, vraiment.
Intéressant, intéressant. Oui. En tout cas, j'imagine que je devrais pas m'émerveiller quand je vois un propriétaire de salle de spectacle qui veut rendre sa salle accessible. Là, je sais qu'on est en 2019, ça devrait être la norme. Mais malheureusement, comme ça ne l'est pas, ben on est encore un peu... Ah! Quand on voit une journaliste qui n'est pas sollicitée par un organisme qui se questionne sur l'accessibilité des salles de spectacle dans sa ville, et ensuite, ben quelqu'un qui, justement, veut, dans la salle de spectacle, qui est en train d'organiser, la rendre accessible pour tous. Simon April, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Simon, qui est responsable de la défense des droits et des communications du côté du Cap-Vie. Bon, je ne sais pas si celle-là va faire moins ascenseur. Vous m'en donnerez des nouvelles. Jean-Sébastien, je vais te poser la même question après l'audition de Gran Torino de Jamie Cullum.
Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle night, tender breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees. They're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become, standing strong to you along in your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Some and bitter dreams grow. A heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. This sparkling world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through Gran Torino, whistling another tired song.
engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long.
Je suis plus confortable avec ce choix-là. J'avoue, même si c'est doux et c'est très, très, très joli. C'est peut-être, Jean-Sébastien, disons, la salle de spectacle affiliée à l'hôtel?
Oui, ça je m'en vais bien apprécier un pianoman dans une grande salle comme ça, là, un samedi soir, bien relax. Ça fait pas du tout musique d'ascenseur comme on parlait tantôt. Ouais. Ou en tout cas, ça serait une balade d'ascenseur assez triste, merci.
Darren Flynn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'Université de Calgary. Il y a beaucoup de neige à Calgary, semble-t-il?
Ah, ouais, cinquantaine de centimètres au moins.
Vraiment, là?
Ouais, ouais, c'est complètement fou.
Wow, vous êtes chez vous ou vous êtes au bureau?
Non, on est au bureau. Non, les écoles, les universités ne ferment jamais en Alberta, même si...
50 centimètres, les écoles ne ferment pas.
Quoi que non, je dois dire que l'Université de Lethbridge, au sud de nous, ouais, je pense qu'aujourd'hui, ouais.
Je suis impressionné.
Ouais, mais les enfants, jamais. Depuis les années 70, au moins.
Ouais. Pauvres autres. On cause avec Darren Flynn parce qu'on voulait parler de ce mouvement en vue de préserver et de faire connaître les langues des signes autochtones. La virgule, elle doit être au bon endroit. Et je me demandais d'abord, il y a combien de langues des signes autochtones? Parce que je sais qu'il y a une langue indigène que l'on a vue reconnue dans la loi C-81... comme une langue officielle, une langue reconnue. Je pense que c'est quoi? C'est la ISL, je crois, l'an dernier. Mais est-ce qu'on sait combien il y a de langues signées autochtones?
Peut-être trois ou quatre, mais okay. Il y en a une de celles-là, c'est la langue des signes des plaines, qui a beaucoup de dialectes.
Oh.
Mais il y a un standard qui a commencé dans les années, surtout au 18e, 19e siècle. Et alors, les autres dialectes ont été réduits un peu, mais la variété standard existe encore. Ouais. Il n'y a plus que, disons, une centaine de signeurs qui restent, ouais, malheureusement. Ça, hein? Ouais. Mais il faut dire que ça c'était une langue énorme, une langue internationale énorme. Au 19e siècle, il y avait des dizaines de milliers de signeurs. Dizaines de mille. Et elle était signée depuis le fleuve de la Saskatchewan jusqu'au fleuve du Rio Grande.
Ah oui, alors, c'était
incroyable. Donc, on parle là de 4,6 mille kilomètres carrés. Hein.
Wow.
4,6 millions de kilomètres par carrés.
Et là, on parle de plusieurs communautés autochtones. On parle de gens qui parlaient l'espagnol également, des gens qui parlaient l'anglais. Donc, plein de langues. Comment se fait-il que la langue des signes des plaines était si répandue? Est-ce qu'on
c'est
le sait?
Justement, c'est à cause des langues avant l'espagnol et l'anglais. Tout ça, c'est les langues autochtones. Elles appartenaient à tellement de familles différentes. On parle de soixantaines de langues qui appartiennent à des familles très différentes, telles les langues Sioux, les langues Algonquines, okay. Dene, Athabascane, tout ça. Elles étaient tellement différentes que les gens ont adopté ce système qui a été développé par des personnes sourdes. Mais c'est un cas épatant où la langue des sourds a été choisie comme langue internationale parmi tous les peuples. Et sur une région. Là, on parle d'une région qui est plus grande que l'Union européenne, par exemple.
Alors,
c'est quelque chose de très important. Et oui, le fait que des gens veulent le ramener au présent, c'est génial. Il y a un workshop dans la Saskatchewan cet été qui était très populaire. Et même à ce jour, au Montana, on peut prendre des cours dans cette langue au collège. Et il y a plein d'intérêt et ça fait partie du patrimoine de notre héritage linguistique ici en Amérique du Nord.
Mais combien de personnes, disons, parce que c'est pas une langue en particulier, c'est comme une sorte de créole, c'est ce que je comprends?
Oui, elle a été métissage. Utilisée, il y a eu un peu de ça aussi, oui. Alors, ce que ça veut dire, c'est parmi les dialectes, il y avait peut-être les signes, peut-être 85% jusqu'à 90% ouais. qui étaient les mêmes signes. Mais si on compare avec, par exemple, la langue de signes américain, c'est moins de 50%. Parce que c'est des langues signées, il y a encore beaucoup de similarités entre les signes, parce qu'il y a un certain aspect iconique. Mais donc, quand on trouve une langue qui a moins de 50% de rapport entre, par exemple, la langue des signes américaine et la langue des signes des plaines, on parle vraiment de langues complètement différentes. Ouais. Qui ne sont pas,
mais Darren Flynn, qui, mis à part l'exotisme, est-ce qu'il y a des gens pour qui utiliser la langue des signes des plaines est vraiment utile et pertinent dans leur vie? Ou c'est
oui.
vraiment pour l'exotisme?
Les sourds. Oui, en Alberta, dans les communautés pieds noirs, par exemple, mm-hmm. ou les communautés Nakoda, il y a encore des personnes sourdes qui l'utilisent okay. au jour le jour. Okay. Et leur famille, même si leur famille et d'autres personnes entendantes. Et oui, il y a un monsieur, il s'appelle Jeffrey Davis, qui a écrit un bouquin là-dessus. Ça s'appelle Sign Talk, et c'est un bouquin génial. Et il y a 3 ou 4 ans, ça fait 25 ans qu'il cherche des signeurs partout aux États-Unis, au Canada, et il ne trouve pas beaucoup de personnes qui l'utilisent au jour le jour, mais quand même, ils existent. Mais les autres et leur famille, comme vous dites, c'est quelque chose, un point d'intérêt, pas nécessairement quelque chose dont ils se servent chaque
mais
jour.
Mais est-ce que ça pourrait un jour, vous pensez, faire partie d'un cursus pour devenir interprète? Est-ce que ça pourrait être, si on veut être interprète dans votre coin de pays, être un cours obligatoire éventuellement?
Non.
Il n'y a pas assez de monde?
Non, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ça serait un bon choix parce que c'est une langue auxiliaire internationale. Mmh. Malgré toutes les différences entre les peuples autochtones, ils pourraient se servir de cette langue comme langue commune, comme lingua franca. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens. Donc, les autres langues que je voulais mentionner aussi, la langue des Inuits, la langue des signes des Inuits, qui est, elle, peut-être 80 signeurs. Malheureusement, il y a 40 sourds qui l'utilisent et peut-être, si on inclut leur famille, peut-être 80.
Oui, puis souvent, ce sont des gens, j'imagine, qui sont plus âgés.
Très âgé et aussi très répandu aussi dans le Grand Nord. Et c'est la même chose avec la langue des signes des plaines, ils sont très, très répandus. Il y a des communautés un peu plus petites dans la région du plateau, là où habitent les Kootenays, dans les Rocheuses. Ils ont leur propre langue de signes qui, c'est là, peut-être 4-5 locaux. Si je devais deviner, 4-5 signeurs.
Mais heureusement, maintenant, il y a la vidéo. Alors, on peut, avant que ces gens-là décèdent,
exactement.
On peut au moins faire un patrimoine de ça.
Il y a un bon... monsieur Jeffrey Davis a un bon site web où il collectionne des vidéos de signeurs et avec leur permission, il partage ça en ligne.
Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des mots qui, dans les langues, disons que ce soit des plaines ou d'autres Inuits ou dans les langues des signes, est-ce que des signes qui sont repris soit en LSQ ou en ASL?
C'est une bonne question. L'ASL, on a le mot pour le signe pour les personnes autochtones n'était pas trop sympa, alors ils l'ont remplacé.
Okay.
Et il y avait des propositions qui venaient de la langue des signes des plaines, mais en fin de compte, les gens ils ont choisi un autre signe.
Okay.
Alors non, c'est beaucoup plus rare que.
Parce qu'il y a des mots autochtones dans le français, ou dans, que ce soit des villes, que ce soit des... Donc, je me demandais si ça avait influencé.
Non, c'est une très bonne observation. C'est une bonne question. Pourquoi ce ne serait pas le cas, parce qu'on parle d'une langue américaine, alors elle aurait dû prendre beaucoup de ces signes. Mais je pense que C'est juste l'origine de cette langue des signes est venue de l'Europe. C'est comme celle du Québec est venue de Paris d'origine. Alors, je pense que l'histoire, ils avaient d'autres mots. Mais j'imagine pour la faune et tout ça local,
c'est vrai,
possible. Alors,
terminant, est-ce qu'il y a des sourds autochtones qui, disons, refusent, un peu comme parfois, il y a des mouvements maintenant où la personne veut parler, va à tout le moins dire quoi, ou va un petit peu nous faire entendre sa langue. Est-ce qu'il y a des sourds qui vont parler uniquement, puis qui disent à l'anglophone, c'est à toi de t'adapter et non à moi? Est-ce qu'il y a un petit mouvement de...
Non, juste, bon, selon moi, non, mais c'est pas à cause de l'histoire, parce que c'était une langue qui tout le monde utilisait, qui était partagée par tout le monde. Ils l'ont déjà donné à tout le monde. Alors, c'est d'ailleurs, là, je disais qu'il y avait des dizaines de mille de signeurs au 19e siècle, et la plupart, bon, il y avait très peu de sourds parmi ceux-là. C'était une langue internationale qui appartenait à tout le monde.
Ouais.
Elle a un statut un peu intéressant. Alors, c'était la langue maternelle, bien sûr, de personnes sourdes et de leur famille, souvent, mais en général, c'était une langue auxiliaire.
En tout cas, ça a été intéressant d'en parler parce que c'est un article qui nous est tombé sous la main cette semaine, qui nous a mis la puce à l'oreille. Vous étiez cité là-dedans, vous parlez français, c'est magnifique. Merci beaucoup. Faites attention à votre dos en pelletant. Moi, je suis obligé de vous laisser. L'émission est terminée. Merci à Jean-Sébastien Laliberté. Merci à Christiane Campagna. Merci à Darren Flynn. Et ceux qui nous écoutaient sur Canal M en direct, restez là, on va parler balado. Les autres, tiens, téléchargez donc des voix. C'est quoi? J'entends des voix.